Salut, j'espère que tu vas très bien. Alors, je vais te proposer aujourd'hui le second opus précisément posé sur ce qui est du registre des situations karmiques. Et je vais ajouter quelques points à ceux que j'avais dit précédemment sur l'identification en fait d'une situation karmique. Mais avant toute chose, je ne vais pas faire beaucoup de liens encore pour l'instant avec la dimension astrologique en ce qui concerne les marqueurs qui vont être potentiellement plus révélateurs que d'autres de situations karmiques. Néanmoins, je te souligne quand même que nous sommes en pleine période d'éclipse jusqu'à la fin du mois de mai et que ces périodes sont particulièrement propices à l'émergence justement de situations karmiques. Et que c'est un petit peu ce qui justifie aussi le podcast que je te fais à ce propos dès à présent. Autre point aussi sur lequel je vais revenir, je parle de situation au sens large plutôt que de relation, pour une simple bonne raison, c'est que quand on va parler de situation, on peut mettre l'idée de relation à l'intérieur d'une situation, mais c'est surtout que situation karmique nous évoque une vision, j'ai les poules qui sont bavardes, hein, une vision un peu plus sur le mode de système. Alors c'est le cas aussi pour une relation, mais dans une relation, alors surtout en ce moment, hein, parce qu'on approche, les luminaires seront sur l'axe scorpion, les luminaires seront sur l'axe bélier balance lors de l'éclipse, et les nœuds lunaires, qui sont eux les porteurs du karma, seront sur l'axe encore, la fin de l'axe taureau-scorpion. Et comme nous sommes quasiment en preview hein, de la bascule des nœuds lunaires sur l'axe bélier-balance, l'axe bélier-balance questionne énormément les relations, la juste place de chacun dans les relations, les recherches d'équilibre et d'affirmation juste de soi. Donc on a quand même le parfum de relation qui est tout à fait centré autour de ce que je vais te dire, mais pour les raisons que je viens de t'évoquer, je vais préférer continuer à parler de situation au sens global et général du terme. Alors, situation karmique. La dernière fois, je t'avais parlé des éléments qui permettaient de les reconnaître. Il y avait la familiarité et l'attraction-répulsion qu'on déclinait en fait sur le même temps, qui provoquait une forme un peu de confusion sur la compréhension globale de ce qui était en train de se vivre par rapport à une situation karmique. Je vais rajouter quelques éléments qui vont être peut-être un peu plus subtils. Alors, je m'appuie vraiment, non seulement sur mon expérience, bien entendu, mais aussi sur ce que je peux entendre et partager au cours de mes échanges, au cours des consultations que je fais. Donc, pas mal de choses qui viennent corroborer cette classification et cette précision que je vais apporter dès à présent. Quelque chose qui est difficile à conceptualiser, mais quand tu es dans une situation karmique, il va y avoir un certain nombre de points que certains appelleront des coïncidences, que d'autres appelleront des synchronicités, qui viennent jouer sur deux tableaux nous concernant. Alors, le premier tableau, je pense que les personnes qui ont une sensibilité particulière, une approche intuitive, médiumnique des choses, ont certainement déjà fait cette expérience, et pour les autres aussi, parce que de toute façon, comme tout le monde est en train de booster un peu sa sensibilité en ce moment, on est tous quasiment sur un pied d'égalité par rapport à ça, par rapport à nos perceptions. Le point qui changera, c'est la manière dont nous les interprétons et ce que nous en faisons. Mais la perception, elle est non discutable. Dans ces situations karmiques, il y a comme des éléments du coup de coïncidence ou de synchronicité qui apparaissent un peu en surbrillance en fait dans le décor dans lequel nous sommes. Tu sais, ça pourrait ressembler à ces jeux vidéo. Alors je pense à un notamment, à un jeu d'énigmes où quand tu promènes la souris sur le décor et que ta souris se pose sur un objet qui contient une potentielle action à mener, l'objet se met en surbrillance, il se surligne comme ça dans le décor, ce qui te permet de savoir que du coup il y a quelque chose à faire. Et bien en fait dans les situations karmiques, il y a plein de choses comme ça Et ce sont ces coïncidences ou ces synchronicités qui viennent jouer ce rôle de l'objet. C'est-à-dire que ça clignote et ça vient attirer ton attention sur l'idée qu'il y a peut-être autre chose qu'un pur, plein de guillemets, hasard, je ferme tous mes pleins de guillemets, derrière cette étrangeté, cette répétition que l'on voit sous nos yeux. Et effectivement, c'est bien là pour ça, c'est bien là pour nous dire quelque chose. Et potentiellement, c'est en tout cas assurément là pour qu'on s'y intéresse un tout petit peu. Et pas que l'on fasse comme si ça n'était pas... justement une coïncidence. Quoi. C'est au-delà de ça. Alors, ça met en levier deux choses. Cette émergence des, entre guillemets, coïncidences, que je vais arrêter d'appeler coïncidence d'ailleurs, parce que ce n'est pas du tout un mot qui me convient et que je vais appeler signe, si tu le veux bien, parce que ça me convient déjà davantage. Le premier point, c'est que quand tu as ces signes qui interviennent dans ta vie et qui viennent de manière suffisamment visible et limpide pour que ça te propose en fait une forme de sentiment d'étonnement, note-le quelque part et puis essaie de réfléchir à quelles sont les résonances que ce signe que tu reçois peut avoir avec toi. La réponse est en toi à chaque fois, ce qui évidemment ne t'empêche pas d'aller utiliser les dictionnaires des symboles et tous les outils dont tu disposes, hein, qui sont infinis, pour aller comprendre ce signe-là sur différents plans. Le plan de ta vie, par exemple. J'ai un souvenir marqué de mon enfance avec un oncle qui faisait le Père Noël régulièrement, et c'était un moment particulier dans la famille. À chaque fois que je vais voir un bonnet de Père Noël, je vais éventuellement associer cette image mentale à l'image de mon oncle, qu'il soit vivant ou pas d'ailleurs, hein, mais ce qui d'ailleurs est quelque part ne va pas s'exploiter de la même manière si le tonton en question est vivant ou s'il est mort. On ne va pas l'interpréter de la même manière. On va rester sur un cas simplexe pour ne pas partir dans la médiumnité pure avec les contacts avec les défunts, bien que ça soit tout à fait avéré, on va le dire comme ça. Mais admettons que le tonton soit vivant, il y a peut-être quelque chose dans la personnalité du tonton qui est éventuellement une forme d'indication pour moi. Peut-être qu'il y a un modèle à suivre ou au contraire à ne pas suivre dans l'exemple de vie que m'a proposé ce fameux tonton et qui s'avérerait intéressant d'aller relever à ce moment-là de ma vie à moi. Donc ça, premier point, donc on a une indication comme ça, subtile, comme une forme de guidance personnelle qui intervient à travers ces signes-là que l'on reçoit. Et vraiment de cette manière-là très très importante, tu comprends qu'il y a effectivement un champ de ta vie personnelle qui peut être présent dans les signes que tu reçois. Et puis après, il y a tous les champs des symboles, de la numérologie, de l'astrologie, où on va faire des déclinaisons par archétype pour aller comprendre en fait de quoi il est question. Ben, par exemple, si je reste sur le côté du bonnet de Père Noël, mais que je n'ai jamais eu de tonton qui a joué le Père Noël, le bonnet du Père Noël, du coup, ben, c'est Noël. Alors si je n'ai pas de choses plus particulières que ça autour de cette date, qu'est-ce que ça représente pour moi? Comment se passaient les repas de famille si tout ceci est finalement assez posé et émotionnellement plutôt OK? Peut-être que je vais regarder sur tout ce qui va être la dimension de la nativité. Qu'est-ce que ça veut dire? On est aussi sur le solstice d'hiver, donc est-ce qu'on a une corrélation qui peut se faire? Et on documente comme ça un petit peu le signe, quand il est récurrent, hein, évidemment, ce n'est pas des choses qu'on peut faire non plus tout le temps si on en reçoit beaucoup, mais ils sont souvent récurrents, donc finalement, il n'y a pas tant de recherche que ça à faire la plupart du temps, parce que c'est aussi très souvent redondant. Peut-être que je vais aborder ce signe-là de cette manière-là. Dans les situations karmiques, c'est extrêmement fréquent, dans les moments karmiques en plus, comme les éclipses, là en ce moment, c'est extrêmement fréquent d'avoir comme ça des recrudescences de signes, des choses qui sont très très interpellantes, qui peuvent nous mettre dans une certaine confusion, mais j'y reviendrai dans un instant. La deuxième chose que met en action ces formes d'apparition de signes, ça vient nous parler aussi d'un truc beaucoup plus posé sur le plan des neurosciences, qui est le système d'activation réticulaire. Alors, le système d'activation réticulaire, j'en parle très longuement, enfin en tout cas suffisamment longuement, je pense, dans la vidéo intitulée « Et l'univers t'aidera ?» disponible sur ma page YouTube, en sachant que cette vidéo va sortir de la diffusion publique d'ici la fin du mois d'avril, parce qu'elle s'intègre dans le cadre d'un programme de conduite de projet assisté par l'astrologie, et que du coup, elle restera à disposition pour celles et ceux qui sont inscrits au programme à partir de la fin du mois d'avril. Mais pour l'instant, je la laisse encore en partage public sur YouTube. Le système d'activation réticulaire, c'est un système à l'intérieur de notre corps, hein, une forme un peu en forme d'amande très très étirée, qui vient repérer et noter tout ce qui arrive à nous en termes de sensations, donc par nos sens, hein, vue, ouïe, goût, odorat, toucher, tout ça. Et nous allons jusqu'au bout par également notre sixième sens et nos sixièmes sens et nos sens inconnus et non maîtrisés et non travaillés. Et ce système d'activation réticulaire agit finalement comme une forme de filtre à ce qui semble être important pour nous et vient nous les présenter sous les yeux. C'est ainsi que quand tu es en train de chercher à changer de voiture et que tu penses avoir repéré un modèle qui te convient, tu vas voir tout d'un coup ce modèle absolument partout parce que c'est au premier plan en fait de tes pensées très pragmatiques du moment, de tes préoccupations, et que ton système d'activation réticulaire donc te repropose à l'extérieur, donc en visualisant à l'extérieur de toi, ce qui se passe finalement à l'intérieur de toi. Pourquoi c'est important de prendre cette dimension des neurosciences et du système d'activation réticulaire quand on va parler du sas karmique ? Bien parce que dans l'ensemble de ces signes et dans l'ensemble de ces perceptions récurrentes, redondantes que l'on peut avoir, eh bien, il y a aussi l'information que nous sommes dotés d'un sens beaucoup plus subtil, peut-être que les sens traditionnels que l'on accorde à l'être humain, et qu'à travers ce sens beaucoup plus subtil, notre système d'activation réticulaire, lui, il comprend très très bien de quoi il est question, et il vient nous proposer pour que ça puisse aussi remonter à notre conscience. Donc des informations sensibles, très fines, que nous captons sans nous en rendre compte, et qu'on imprime parce qu'il y a comme une forme de reconnaissance avec ce qui émane en fait de cette vibration. Donc ces signes, ces récurrences de signes, de coïncidences, de curieux hasards, on va dire, c'est un indicateur fort aussi que nous sommes dans une situation karmique. Alors ça peut aller sur plein de choses. Hein. Les dates, déjà, les dates sont extrêmement parlantes. Alors tout ce qui est date d'anniversaire, date de fête, éventuellement les dates religieuses selon nos cultures individuelles, les prénoms, des chevauchements de prénoms, des croisements d'adresses, voilà, un certain nombre de choses qui sont comme ça assez éloquentes et redondantes. Croiser tout d'un coup plein de personnes qui portent le même prénom, ça fait partie des surprises aussi que la vie nous envoie régulièrement. Se retrouver dans un endroit et se rendre compte qu'en fait, cet endroit-là est le berceau d'une partie de la famille, par exemple, alors qu'on ne le savait pas. Tout ceci, ça fait partie vraiment des situations et des informations, des signes qu'on va retrouver dans le cadre de nos expériences karmiques. Donc là, on a un petit clignotant qui se met quelque part, parce que c'est aussi la récurrence de tous ces signes-là qui va venir appuyer sur le sentiment de familiarité dans lequel je te parlais lors du premier opus consacré à cette thématique. Autre point très émergent dans les situations karmiques, c'est ce côté de confusion où finalement il y a des choses, des signes que l'on reçoit, où on va parfois se demander si c'est bon ou si c'est pas bon. Et en fait, cette question que l'on se pose pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, elle n'est pas tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où tout de suite on a envie d'aller donner une direction, donner un sens, rassurer nos angoisses existentielles, hein, sachant que les situations karmiques sont parfois tellement troublantes qu'effectivement, il y a un petit train d'anxiété qui peut suivre le contexte karmique. Et on va essayer de savoir si c'est un signe d'encouragement, un signe d'avertissement, de quoi il est question, mais qu'est-ce que ça veut dire, et dans quelle étagère je range ça, parce que c'est tellement plus confortable quand on peut donner une forme aux choses. Bon, ça va, on n'est pas tous égaux par rapport à ce réflexe-là. Plus on va être dans des dynamiques de contrôle, plus on va avoir tendance à vouloir justement ranger un peu les choses dans des cases et clarifier au maximum notre pensée, notre confusion, de manière à pouvoir évoluer un peu plus sereinement. Bon, le truc, c'est que en période karmique, on a tous cette petite sensation de vouloir contrôler qui se réveille, même si on est, entre guillemets, pas trop atteint par la dynamique de contrôle. Mais il y a tellement de subtil, et pour peu qu'on ait un peu les doigts dans la prise de façon naturelle, que le petit courant d'air déstabilisant de la période karmique, petit ou gros d'ailleurs, hein, je ne veux pas minimiser les choses parce que personnellement, en ce moment, je fais plutôt l'expérience de quelque chose de plutôt gros sur le plan karmique, qui se traite bien au-delà, en fait, des périodes d'éclipses. Mais la période des éclipses est un excellent moment pour récupérer aussi des informations. Alors, je ne sais pas si tous les médiums sont comme moi, avec cette sensibilité particulière aux saisons karmiques. Mais je sais que chez moi, ça active toujours, toujours beaucoup de perceptions, beaucoup de connexions avec l'intangible, beaucoup d'intuition, beaucoup d'informations. Et en général, j'ai beaucoup de matière à l'issue des saisons karmiques à aller travailler, à les développer pour pouvoir aller avancer sur mon chemin individuel. C'est aussi un moment où la perception que je peux avoir des choses est aussi beaucoup plus fine. Parce que dans mon espace karmique et antérieur à moi, il y a des clés, il y a des choses que j'ai appris à faire dans d'autres vies et qui du coup sont très activées quand on est en saison karmique. Enfin, qui sont activées tout le temps, mais qui sont encore plus activées quand on est en saison karmique. Alors, cette confusion-là qu'on a envie de balayer en fait, d'un revers de main, de manière à pouvoir orienter un peu notre vie, notre choix, il n'y a pas grand-chose à faire que de laisser passer et lâcher prise. Il n'y a pas d'antagonisme avec ce que je te dis lorsque je t'explique que quand tu as des récurrences de signes, tu peux aller te documenter. Lâcher prise, ça ne veut pas dire ne pas du tout s'en occuper, aller traiter finalement ce qui se passe avec une relative indifférence, hein, puis se dire que ça s'arrangera tout seul ou que ça s'arrêtera quand la saison karmique sera terminée. En fait, non, rien ne s'arrête tout seul, hein. Les choses qui s'arrêtent toutes seules, c'est quand elles sont programmées pour s'arrêter toutes seules. Quand l'univers commence à mettre sur ta route des petits cailloux, comme le petit poussé, c'est qu'il attend de toi, quelque part, quelque chose de plutôt précis. Et on ne peut pas ignorer ça. La confusion de la laisser passer, c'est surtout d'accepter de ne pas y voir clair pendant cette période-là. Accepter que le tempo ne soit pas à l'ordre de la vision claire des choses. D'ailleurs, en général, mais tout est à singulariser parce que chaque cas est vraiment très particulier, mais il est assez peu recommandé d'aller entamer des actions conséquentes en période karmique, parce que le sas de confusion, il est là pour tout le monde, qu'on en soit plus ou moins conscient, mais c'est là, ben, regarde les actualités en ce moment, tu vas vite comprendre où elle est, la confusion, là. Elle est très très forte, très très forte, on n'y comprend plus rien. Cette confusion est donc valable pour tout le monde et dans un environnement qui, comme ça, est confus émotionnellement déjà en premier plan, pas facile d'aller construire des choses qui soient fluides parce que les erreurs de compréhension, les erreurs d'interprétation de signaux sont vraiment assez, assez fortes. Donc lâcher prise, d'accepter finalement que ce tempo ne soit pas très clair dans notre esprit, d'accepter de se poser des questions. Donc ça nous permet aussi en même temps de sortir d'une idée de grande maîtrise hein, de ce qui nous arrive, de ce qu'on vit, ça nous remet aussi, hein, la période karmique sert à ça, hein, quelque part, à une posture d'humilité où notre ego peut se trouver très largement dépassé, en fait, par ce qui se passe. Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que celle d'accepter. Alors, notre ego est dépassé par ce qui se passe dans une certaine mesure, parce que c'est lui qui va être quand même aux commandes pour aller essayer de rassembler les éléments du puzzle. Alors, les éléments du puzzle, donc tous ces petits signes, toutes ces petites compréhensions qu'on peut avoir au fur et à mesure du temps, ces symboles récurrents qui reviennent. Alors, par exemple, tu vois, pendant très très longtemps, et ça revient de temps en temps, j'ai un symbole qui refait surface dans ma vie, c'est la montgolfière. Et je ne suis toujours pas arrivée au bout de la compréhension de ce symbole, mais je n'évolue pas non plus comme une acharnée avec cette montgolfière. Mais je sais qu'elle est par contre un indicateur. Et en l'interprétant comme ceci, elle me parle beaucoup plus et je sens une résonance en moi. Elle est elle procède comme un indicateur pour moi. Elle vient me signifier certains moments, certains virages de ma vie qui se présentent. Et j'ai néanmoins toujours pas pu faire le lien complètement tangible avec ce qui se dit traditionnellement sur la symbolique de la montgolfière. Ceci étant, ça permet quand même de se piloter à minima. Et quand je vois les montgolfières revenir, je sais que mon système d'activation réticulaire a capté un truc qui, dans mon esprit, s'est associé au changement et aux modifications. Et il vient me le retraduire sous la forme de cette montgolfière. Peut-être que dans un an, dans deux ans, ma vision de ce symbole-là dans ma vie aura changé, se sera modifié, et peut-être que j'aurai une autre interprétation à faire, une autre compréhension, et peut-être même que je me dirai « Oh là là, mon Dieu, mais t'as cru ça pendant tout ce temps-là, mais qu'est-ce que t'étais quiche ?» Bon, ben oui, peut-être. C'est aussi ça, le rapport aux zones karmiques, c'est oui, potentiellement on se trompe. Potentiellement on se trompe, et puis potentiellement c'est pas grave, parce que c'est juste être vivant, que d'avoir l'occasion de se tromper. Et en ce sens, c'est quand même plutôt une bonne chose. C'est l'occasion à chaque fois d'aller progresser, d'aller s'améliorer et de finalement de se donner un peu plus de liberté, d'aller conquérir de manière un peu plus présente et consciente aussi, ce qui fait partie de notre pouvoir personnel pour aller exaucer et réaliser finalement ce qu'on a envie de réaliser dans nos vies. Ça semble quand même assez essentiel. On aura l'occasion de revenir sur les différents plans de ces situations karmiques. L'idée phare reste quand même toujours la même. C'est ce qui nous est donné un sens. En tout cas, c'est comme ça que je choisis de voir les choses. Ça a un sens. Ça vient s'inscrire dans nos dynamiques de vie singulières. Et c'est à partir de ces dynamiques de vie singulières que l'on va réussir à aller basculer, à faire des choix différents, des choix novateurs, qui ne soient pas le produit en fait, de réactions compulsives. Et ça aussi, on va en reparler beaucoup plus dans le détail, parce qu'il y a une approche, en fait. Sur le premier volet consacré aux situations karmiques, je te parlais de nos modalités défensives, qu'on appelle aussi les 4 F. Je ne t'en ai pas parlé en te citant les 4 F, mais je vais le faire à présent, qui viennent des verbes tels qu'ils sont déclinés en anglais, hein, to fawn, to fly, to fight, to freeze. Donc to fawn, c'est une forme de suradaptation, de flatterie, en fait, c'est-à-dire éviter, aller flatter une menace pour ne pas qu'elle se retourne contre nous. Donc ça, c'est un mécanisme défensif. Les autres sont beaucoup plus connus. Hein. To freeze, c'est se figer, hein, être comme un lapin pris dans un phare face à quelque chose qui semble offensif pour nous. Fight, se battre, hein, part dans le combat. Et fly, s'enfuir. Hop, on prend la poudre d'escampette et on court à toute vitesse. Ces quatre grandes modalités de réaction par rapport à des situations qui peuvent être notamment karmiques, hein, quand on se sent dans des niveaux de confusion trop forts, potentiellement nos besoins de sécurité peuvent nous faire rentrer dans des postures défensives. Hein. quand il y a trop d'émergence de choses, quand ça tombe un peu trop fort, un peu trop vite, quand il y a beaucoup de signes, quand éventuellement il y a des événements qui peuvent avoir aussi une dimension traumatique qui tombe dans des périodes karmiques, on peut complètement, avec une vitesse folle même, j'ai envie de te dire, basculer dans des postures défensives. Regarde dans quel type de posture tu es, et ta carte astrologique peut aussi te donner des informations pour savoir dans quel type de posture défensive tu te retrouves le plus souvent. Il y a des indications très intéressantes à récupérer là. Donc on aura l'occasion, oh il pleut, on aura l'occasion d'en reparler parce que je trouve que c'est assez intéressant que d'aller entrevoir ce qui est de l'ordre du karmique comme étant vraiment une guidance, quoi. C'est comme ça que moi je m'en sers au quotidien, c'est comme ça que je m'en sers en plus, de plus en plus. C'est-à-dire que nos précédents karmiques, ces choses-là qui remontent en surface comme des indicateurs d'un truc qui est à revoir, à reprendre, à recorriger, quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, tel qu'il est établi aujourd'hui dans notre vie, dans notre présent, eh bien, les périodes karmiques, les périodes d'éclipse, les situations karmiques que nous rencontrons sont là pour parfois nous mettre un peu les points sur les i et les barres. Mais il y a une manière de les vivre qui est sans drame. Et ça, c'est plutôt agréable de savoir qu'il y a une manière de le vivre sans drame. Bon, alors tu sais quoi, là, je mets ma capuche et je cours à travers la forêt pour aller me mettre à l'abri. Je t'embrasse bien fort.